Vous écoutez
RMC.
RMC Football Show.
François Pinet.
Il est 18h sur RMC. Très heureux de vous retrouver pour le RMC Football Show. Un RMC Football Show exceptionnel ce soir, puisqu'on va lancer avec vous la deuxième journée de Ligue 1. Et c'est le début aussi de la première ligue aujourd'hui, de la Bundesliga en Allemagne et de la Liga en Espagne. Pour parler de tout ça avec moi en studio, Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
Dans un instant, les premiers mots de Mauricio Pochettino qu'on n'a pas encore entendu depuis l'arrivée de Lionel Messi. Avec cet effectif des Galactiques, est-ce que le coach argentin est sous pression, supporter du PSG? Vous venez nous voir, on vous attend au 32-16. Et puis l'un des événements du week-end en Ligue 1, c'est le retour de Christophe Galtier à Lille, sur la terre de ses exploits. Oui, à Lille-Nice ce week-end. Quel accueil pour Galtier, désormais coach de Nice. On sera avec Jean Baumel, notre correspondant dans le Nord, et Clément Brossard qui a accueilli Galtier du coup à Nice. On vous attend également au 32-16, supporter de ces deux équipes. Et puis Sampaoli va découvrir dimanche contre Bordeaux la folie du stade Vélodrome pour la première fois en match officiel. Il y avait déjà eu du public lors d'un match de préparation contre Villarreal. On va en parler dans une demi-heure avec Flo Germain, notre correspondant à Marseille. On fera également le point sur le mercato marseillais. Et puis à 19h, supporter de Lyon, soyez présents parce qu'on va parler de votre club. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le mercato lyonnais, un mercato en stand-by? Qui prend les décisions à Lyon pour le mercato? Est-ce que c'est Juninho? Est-ce que c'est Jean-Michel Aulas? Ou est-ce que c'est Peter Bosz, l'entraîneur? Il y a beaucoup de questions alors que la saison vient à peine de débuter. Et puis bien sûr, nos drôles de dames sont de retour pour le début des championnats européens. Reprise de la Liga, je vous le disais ce soir. Est-ce que le Real Madrid et le Barça vont se refaire? Fred Hermel sera avec nous dans la deuxième heure du RMC Football Show. Reprise aussi de la Première Ligue et de la Bundesliga avec un très beau Borussia Mönchengladbach Bayern Munich dès ce soir. Paulo Breitner sera en direct avec nous pendant deux heures. Le RMC Football Show, le 32-16 ouvert, l'appli RMC Direct Studio pour laisser vos messages ou encore le hashtag RMC Live sur Twitter.
La une du RMC Football Show.
Demain à 21h, il y a donc Paris Saint-Germain-Strasbourg avec un événement, la présentation au Parc des Princes des recrues du PSG. Lionel Messi, bien sûr, d'abord, mais aussi Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi. Les deux derniers nommés, d'ailleurs, Wijnaldum et Hakimi, seront aussi sur la pelouse, hein, puisqu'ils ont déjà débuté, eux, contrairement à Ramos, à Donnarumma et à Lionel Messi. Quelques infos sur le groupe parisien. Ramos, justement, reprise de la compétition envisagée après la trêve internationale, donc début septembre. Dagba, lui aussi, est en phase de reprise, retour envisagé après la trêve également. Juan Bernat a repris l'entraînement collectif, mais pas encore de date de reprise pour l'Espagnol qui a manqué beaucoup de compétitions l'année dernière. Et puis Idrissa Gueye peut-être de retour la semaine prochaine puisqu'il a contracté le Covid. Valentin Jamin est avec nous. Salut Valentin.
Salut messieurs, salut à toutes et à tous.
Tu étais aujourd'hui pour RMC à l'entraînement du Paris Saint-Germain, deuxième entraînement pour Messi. Il y avait encore du monde aujourd'hui?
Beaucoup de monde, bah surtout c'était la première fois que c'était ouvert aux médias, donc on était environ 60 journalistes au camp des loges sur une petite terrasse pour filmer et photographier les premiers pas de Messi. C'était très impressionnant, c'était du jamais vu, beaucoup de journalistes étrangers également, des Brésiliens, des Argentins, des Espagnols, Anglais, Italiens, bref, c'était un grand jour donc pour le premier entraînement sous l'œil des caméras de Messi. Il a fait les 15 minutes avec l'ensemble du groupe, bon c'était l'échauffement hein, de l'entraînement, on l'a vu entrer avec ses compatriotes, Di Maria, Paredes, rigoler un peu notamment avec Neymar. Ensuite, sur le petit exercice d'échauffement. Ensuite, il s'est mis en doublon avec le Brésilien, son ancien partenaire au Barça, pour un exercice à deux sur des accélérations. On les a vus sauter et se taper épaule contre épaule. On sent qu'il y a quand même la complicité qui est un peu revenue entre les deux. Et puis, il a fini, Lionel Messi, avec ses coéquipiers sur un petit taureau où il a pu faire admirer encore sa qualité technique, des petites passes bien senties pour l'Argentin, donc, qui a fait le début de la séance avec le groupe, mais qui, tu l'as dit, ne sera pas dans le groupe demain face à Strasbourg.
Il ne sera pas dans le groupe. Quand est-ce qu'on peut espérer voir Lionel Messi, sachant que il l'a dit lui-même aussi lors de sa conférence de présentation, il doit se remettre avec des entraînements puisque pendant un mois, il n'a pas joué au foot.
Bah, normalement, c'est 4 semaines minimum. Normalement, c'est 5 semaines de préparation, mais c'est 3 à 4 semaines minimum pour être vraiment apte à jouer un match de haut niveau. Alors après, on peut aussi penser que dans 3 semaines, il pourrait faire une entrée ou pas d'ailleurs.
Dans 2 semaines, c'est à Reims. Hein, donc,
oui. Honnêtement, je pense que pour Reims, c'est trop juste et ça sert
donc,
à rien.
Ça sera après la trêve internationale. Et après la trêve internationale, c'est contre Clermont.
Clermont
au Parc des Princes.
Après,
c'est début septembre.
Il y a une autre chose à savoir. Est-ce qu'il y va en équipe nationale avec cette trêve? On ne sait pas. Franchement, si tu n'as pas eu de préparation, c'est quand même compliqué d'aller avec ta sélection après un long voyage jusqu'en Amérique du Sud. Mais bon, apparemment, on a lu que Selon certaines informations, il y aurait quand même une clause pour favoriser la sélection nationale, même si les joueurs ont toujours quand même pour but de jouer en sélection nationale. Mais s'il y a une clause en plus qui appuierait ce phénomène, je pense qu'il va bien sûr aussi vouloir aller jouer avec l'Argentine dès que possible.
Bon, en tout cas, je crois que Pochettino a dit qu'il était en pleine forme.
Il a senti en pleine forme à l'entraînement, pas de problème particulier, mais comme disait Kevin, c'est juste le temps de se remettre au niveau physique, de reprendre, parce qu'il a joué tard, il a remporté la Copa América avec l'Argentine, donc c'est un des joueurs qui a joué le plus tard cette saison.
Et puis ça sert absolument à rien de se presser. Lionel Messi, on va le voir avec le maillot du Paris Saint-Germain, maintenant on en est sûr, on n'est pas une semaine ou 10 jours près, donc il faut vraiment que... Mais bon, ils n'ont pas besoin de nous pour le savoir, mais il faut absolument qu'ils prennent leur temps, et de toute façon les échéances à venir pour le Paris Saint-Germain, c'est plutôt le retour de la Ligue des Champions pour Messi que vraiment la Ligue 1 dans un premier temps.
Alors n'hésitez pas, 32-16 d'ailleurs, si vous allez au stade, rien que pour voir la présentation de Lionel Messi, parce qu'il sera, non pas sur la pelouse, mais en tout cas en tant que joueur, mais il sera présenté comme les autres recrues, donc demain à 19h30, le club a communiqué sur cet horaire-là, 19h30, 1h30 avant le coup d'envoi de PSG Strasbourg. D'autres infos, Valentin, sur cette conférence attendue de Pochettino. Donc bon, il a dit tout le bien qu'il pense à Lionel Messi, ça d'accord.
Ah bon ?
Mais il y a quand même...
Il aime bien ?
Ouais, je crois qu'il aime bien.
Ouais, okay.
Mais il y a quand même des sujets chauds à Paris, et le sujet le plus chaud, c'est l'avenir de Kylian Mbappé.
Et ça ne trompe pas, c'était la première question posée en conférence de presse. C'était pas sur Messi, c'était sur l'avenir de Kylian Mbappé. On a demandé notamment à Mauricio Pochettino de rebondir éventuellement sur les propos tenus par son président Nasser El Khelaifi lors de la présentation de Lionel Messi, puisque Nasser El Khelaifi avait expliqué, en gros, que Kylian Mbappé avait demandé une équipe compétitive pour rester, voire prolonger, qu'avec Lionel Messi et ce recrutement 5 étoiles, il n'avait plus de raison de ne pas rester. Il a répété dans diverses interviews. Mauricio Pochettino, lui, ne s'est absolument pas mouillé sur cette question. Il a simplement dit: je ne commande pas ce que dit mon président, c'est mon supérieur. Kylian est notre joueur, je n'ai rien à dire. Donc Mauricio Pochettino, on n'en saura pas plus. Ce qu'on peut dire, alors, c'est ponctuel, est-ce que c'est un symbole? Je ne pense pas, mais Kylian Mbappé est entré en dernier seul sur la pelouse du camp des loges ce matin. On avait l'habitude souvent de le voir venir avec Neymar. Je le redis, c'est ponctuel, mais bon, on sait aussi que l'image renvoyée, ils savent ce qu'ils renvoient, les joueurs, notamment quand on sait qu'il y a les médias, etc. Pas d'interprétation, mais c'est un fait.
T'aurais aimé autre chose de la part de Pochettino ou pas sur cette question de Kylian Mbappé? Qu'il dise autre chose, qu'il s'engage un peu plus peut-être?
Non. T'sais, après, moi je pense que là, ils sont dans une situation compliquée, hein, que ce soit le Paris Saint-Germain, l'entraîneur et même le joueur. Donc, je pense que Mauricio Pochettino, il a bien répondu. D'ailleurs, moi, si j'avais été l'entraîneur du Paris Saint-Germain, ça m'aurait même agacé les propos de mon président. Parce que les propos, alors je sais qu'ils ont plu à beaucoup de supporters parisiens, mais c'est vraiment pas la meilleure façon de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Alors certains diront tant pis, mais bon, c'est même pas ce qu'il a dit, mais c'est sur le ton qu'il a employé que je trouvais le président parisien un peu hors sujet. Moi, je trouve que aller titiller comme ça, presque avec un ton provoquant, sa star pour lui demander de rester, honnêtement, je comprends pas. Et encore une fois, pour moi, ça montre qu'il a peu de connaissances footballistiques, parce que quand Mbappé recrute, regarde le recrutement du Paris Saint-Germain. Donc quand n'importe qui, si vous n'êtes pas supporter, faut s'enlever du prisme du supporter parisien qui, lui, bien sûr, est émerveillé par les venues. Mais si tu regardes purement footballistiquement, quels sont les deux meilleurs recrues du Paris Saint-Germain selon toi, François?
Hakimi.
Et
en numéro 1. Bah après,
footballistiquement, t'en oublies la vente de maillots et t'oublies
même Messi, tu peux pas dire que c'est pas une des meilleures recrues.
Mais
même
non, mais oui, mais
après tu vas me parler d'équilibre d'équipe.
Voilà, tu as
mais
déjà
Neymar, Messi, on a vu que ça pouvait fonctionner. Ouais, ils étaient ensemble au Barça.
Non, mais bien sûr, mais c'était une autre équipe du Barça. Donc tout ça, là où je voulais en venir, c'est que aujourd'hui,
si tu regardes Hakimi et Wijnaldum, si tu veux, c'est ça que tu dis.
On est d'accord.
Qui manquait peut-être le plus au Paris Saint-Germain.
On est d'accord en termes d'âge, en termes de projection dans l'avenir, parce que Kylian Mbappé, s'il re-signe au PSG, c'est ça que les supporters parisiens doivent comprendre. S'il venait à re-signer, c'est pas pour 2 ans. Un contrat, ça se re-signe jamais 2 ans. C'est 3 ou 4 ans. Et dans 3 ou 4 ans, ils ne seront plus là, Messi et Sergio Ramos. Bien sûr qu'à l'instant T, ce sont des recrutements très intelligents, en plus de joueurs libres. Mais Kylian Mbappé, il se projette sur un plan de carrière, sur plusieurs années. Et donc, il n'a en aucun cas besoin de parler de son avenir maintenant. Il va voir, est-ce que cette équipe, elle fonctionne? Est-ce que moi je serais d'avis à lui conseiller de rester au Paris Saint-Germain pour faire sa dernière année, essayer d'aller gagner la Ligue des Champions avec des joueurs
sans prolonger.
Mais bien sûr. Pourquoi il va prolonger? Il va prolonger pour faire plaisir à qui?
Bah, pour faire plaisir aux supporters de Paris.
Mais il n'est pas là pour faire plaisir aux supporters.
Parce que justement,
il a jamais été là pour faire plaisir à qui que ce soit. Lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un d'ambitieux. Il veut gagner des matchs, il veut gagner des titres.
Que pour le Paris Saint-Germain, que Mbappé parte libre, c'est quasiment inconcevable.
C'est inconcevable, d'accord. Et Messi qui part libre, c'est concevable?
Non, mais je suis pas sûr que qui part libre, c'est concevable. Content.
Mais non, mais il y a un moment quand tu es le Paris Saint-Germain ou même le président ou un supporter du Paris Saint-Germain, tu peux aussi ouvrir les yeux sur ton propre mercato. Tu as récupéré libre 4 des meilleurs joueurs du monde. Bah oui, dans la vie, peut-être que tu donnes et tu prends, voilà, bon, c'est comme ça.
C'est un autre débat, mais effectivement, c'est un débat qu'on aura jusqu'au 31 août, sans doute, parce que ça va durer ce dossier Kylian Mbappé. Merci beaucoup Valentin, en tout cas, d'être venu
avec
nous voir.
Avec grand plaisir.
À très bientôt sur RMC. L'autre question qu'on se pose, forcément, après ce recrutement galactique, c'est la place de Pochettino. Est-ce que Pochettino a encore plus la pression? Vous venez nous le dire au 32-16, que vous pensez de cette question. En tout cas, la question lui a été posée en conférence de presse, il y a répondu. Écoutez.
C'est un privilège pour moi d'être ici à Paris. Je ne me sens pas plus sous pression désormais. Je suis à la tête du projet. Comme à l'Espagnol Barcelone, Southampton et Tottenham, mes anciens clubs, le PSG est un club qui, au-delà des grands noms au sein de l'effectif, doit surtout gagner des trophées. Et ça ne changera pas. Tu auras forcément des problèmes si tu ne gagnes pas.
Bon, il a pas tort. C'est vrai que la pression au PSG, il l'avait avant. Hein, et il l'a peut-être encore plus maintenant.
Bah après, on peut considérer que c'est de la pression, on peut considérer que c'est aussi très compliqué parce qu'aujourd'hui, on le disait, bien sûr que sur le nom, sur le papier, sur la qualité individuelle du joueur, bien sûr qu'il n'y a pas photo, Messi doit être titulaire, Ramos doit être titulaire, et encore, peut-être pas, certains vont dire que c'est Kimpembe qui doit jouer, le joueur du club, l'international, le champion du monde. Premier problème, est-ce qu'on joue à 3? Si on joue à 3, comment on défend quand on n'a pas le ballon? Est-ce qu'on laisse les 3 stars devant? Ou est-ce qu'on fait tourner avec un joueur qui peut peut-être se sacrifier, comme un Idrissa Gueye ou comme un Di Maria? Parce que Di Maria...
Oui, Di Maria, ça c'est une vraie
Di Maria, lui,
aussi.
Qui dit sur les réseaux sociaux, je réalise mon rêve de jouer avec Messi. Mais pour l'instant, ton rêve, tu vas le réaliser depuis le banc de touche.
Non, c'est pas sûr qu'il joue, bien sûr.
Donc, bien sûr, tu vas t'entraîner avec Messi. Maintenant, est-ce que dans les gros matchs, Di Maria sera titulaire? Je demande à voir.
Après, tu peux avoir Messi qui demande à jouer avec Di Maria aussi.
Ouais, mais non,
ce genre de choses.
J'espère vraiment pour le Paris Saint-Germain et pour Mauricio Pochettino que personne va espérer de jouer avec personne. Il y a un moment, c'est l'entraîneur qui décide. C'est pas au joueur de dire avec qui tu dois jouer parce que là, je pense que le Paris Saint-Germain, ouais, dans ce cas-là, n'y arrivera pas.
Bon, on va demander à Arnaud ce qu'il en pense. Arnaud qui a fait le 32-16 sur RMC à 18h.
Ouais,
salut Arnaud.
Salut François, salut Kevin.
Salut Arnaud. Ouais.
Alors je précise, c'est un supporter lyonnais, hein, mais oui. Tu as bien sûr évidemment le droit de donner ton avis sur ce qui se passe au Paris Saint-Germain et sur Mauricio Pochettino.
Oui, puis amoureux de foot avant tout. Alors déjà, je trouve que dans sa conférence de presse, il a dit pas mal de choses. Mauricio Pochettino, il a parlé... du fait d'avoir du temps, etc. Alors moi, c'est déjà le premier problème, c'est qu'à Paris, aucun coach n'a de temps, parce que les Qataris n'ont pas de temps. Et en fait, moi, je me demande même si ça commence à mal se passer, est-ce que Pochettino va finir la saison? Parce qu'on a très bien vu, Tourelle, il est parti parce qu'il disait qu'il voulait pas faire de la politique. Alors si Pochettino, il va pas devoir faire de la politique cette saison, je sais pas trop ce que ça va donner. Ensuite, la deuxième chose, c'est sur le management, parce que d'accord, Pochettino est un grand coach, mais à Tottenham, il avait Harry Kane, Son et Lamela. Là, il a d'autres joueurs à gérer. Et puis la dernière chose, c'est sur l'animation, parce que on l'a dit, enfin vous l'avez dit depuis plusieurs émissions sur RMC. À un moment, gagner la Ligue des Champions, c'est pas FIFA, une équipe fut quoi. Donc moi, j'entends que sur le papier, c'est très bien, mais quand il va falloir courir face à des Liverpool, face à des clubs, parce que je pense que tous les clubs d'Europe maintenant, on les croit là contre Paris, c'est-à-dire. Vous avez l'argent, ben nous on va avoir la grinta, tout ce qu'il faut. Donc moi je dis que c'est peut-être possible que Pochettino ne finisse pas la saison, parce que je connais aucun entraîneur, même sous l'ère des Galactiques, qui a réussi à gérer autant de stars. Mmh. Quoi.
Ouais. Kevin, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Arnaud? C'est vrai que moi j'imagine pas Mauricio Pochettino ne pas justement se faire cette réflexion lorsqu'il y aura les grands matchs de Ligue des Champions. Il le sait qu'il pourra pas gagner en mettant 4 joueurs offensifs qui ne défendent pas.
Honnêtement, j'aimerais pas vraiment être à sa place. En fait.
Ah, c'est clair.
Mais vraiment. Clair. Alors oui, bien sûr, le Paris Saint-Germain, le club, le prestige, le salaire, ça se refuse pas. Mais aujourd'hui, moi je suis pas sûr que c'est le recrutement dont rêvait Mauricio Pochettino.
Exactement.
Moi je pense que si tu avais proposé à Mauricio Pochettino, et les supporters parisiens peuvent ne pas être d'accord et ça peut en faire tomber certains de leurs chaises, mais moi entre Harry Kane et Messi dans le jeu du Paris Saint-Germain, je parle pas de la qualité individuelle du joueur, mais le PSG aujourd'hui, un numéro 9 comme Harry Kane serait capable de faire jouer Neymar et ça se joue. Après Messi, ça dépend quel Messi. Est-ce que c'est le Messi qui a un peu traîné son spleen sur quelques matchs, même en Ligue des Champions sur les 3-4 dernières saisons, parce que des remontadas, il en a subi, hein. Il en a donné une ou deux, mais il en a subi aussi quelques-unes contre la Roma, notamment contre Liverpool. Et tout Messi qu'il est, il a rien pu faire et il a rien pu faire contre. Donc même avec Messi en plus, il va falloir, parce qu'on me dit, ah oui, mais Messi, c'est bien sûr le meilleur joueur du monde. Avec le ballon. Mais sans le ballon, c'est loin d'être le meilleur joueur du monde. Donc il faut que l'équipe joue pour lui. Ouais. Quand tu as aussi Neymar, Mbappé, qui peuvent aussi avoir un problème lorsque le match tourne moins bien pour aider l'équipe défensivement, Neymar à moindre mesure, parce que Neymar, on l'a quand même vu souvent faire les efforts, il va falloir vraiment trouver une animation offensive. Ça, elle est facile à trouver. Ça va être donne le ballon au génie, ils vont se débrouiller. Ça, on n'a pas de doute. Par contre, sans le ballon, en Ligue 1, ça devrait passer. Mais quand tu vas commencer à toucher des équipes comme Manchester City, Chelsea, même des équipes.
Ouais, Chelsea, bah oui, Chelsea, tu l'as dit, City, Liverpool.
Voilà, les équipes anglaises, mais aussi les équipes espagnoles. Hein, tu sais,
je voulais te faire écouter encore Pochettino, Arnaud aussi, Mauricio Pochettino, justement sur ce thème-là, parce que évidemment, il le sait et on lui a posé la question, comment faire jouer un collectif quand on a toute cette ribambelle de stars?
L'objectif est de faire de ces top joueurs une top équipe. C'est un défi immense que l'on aborde avec enthousiasme. Il va falloir trouver comment travailler tous ensemble et créer une dynamique où chacun peut trouver son rôle. Si on ne joue pas ensemble et qu'on ne travaille pas assez dur, ce sera difficile de jouer comme on le souhaite. Il faut pouvoir sentir à tout moment que l'on a une équipe exigeante et soudée.
Voilà, ça ce sont les mots de Pochettino, on verra sur le terrain comment ça se passe, évidemment, gros boulot pour lui, c'est peut-être le boulot le plus important.
Mais est-ce que c'est, bon, on en parlera peut-être après la pause, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable en fait de faire une équipe, encore une fois, le problème ce n'est pas avec le ballon, mais est-ce que c'est faisable de faire une équipe défensivement, de faire une animation défensive avec autant de joueurs de grand talent et autant de joueurs qui ont été habitués à jouer surtout quand l'équipe était en phase offensive.
Bah, venez nous dire ce que vous en pensez. Hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio. Est-ce que Pochettino va y arriver? Merci beaucoup Arnaud.
Merci.
Tu reviens quand tu veux. Et puis comme tu es un supporter de Lyon, écoute-nous à partir de 19h. On va parler de ton club bien sûr et des inquiétudes autour du Mercato. Et puis je vous rappelle également que pour voir Messi et le PSG en Ligue des Champions, c'est sur RMC Sport 1 que ça va se passer. Les meilleures affiches de Ligue des Champions à suivre chaque semaine avec donc le Paris Saint-Germain, mais aussi sur RMC Sport 1, la Ligue Europa, la Conference League, chaque jeudi. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a une grosse semaine, les rendez-vous mardi 21h, barrage aller de Ligue des Champions, Monaco, Shakhtar Donetsk, ça sera en direct du stade Louis II à suivre sur RMC Sport 1, et puis mercredi Benfica, PSV Eindhoven, jeudi 18h en exclusivité sur RMC Sport 1, ne manquez pas Rennes face à Rosenborg, un barrage de Conference League. Dans un instant, direction Lille, le stade Pierre Mauroy qui va retrouver Christophe Galtier, on en parle avec Jean Baumel et Clément Brossard, à tout de suite.
RMC Football Show,
François Pinet.
18h19 sur RMC, le RMC Football Show qui continue bien sûr avec Kevin Diaz. Dans 15 minutes, le retour de Flo Germain sur l'antenne d'RMC. Bon, c'est pas que ça l'événement, c'est Marseille-Bordeaux qui promet d'être chaud avec le retour des supporters de Marseille au Stade Vélodrome pour un match officiel. Les supporters de l'OM d'ailleurs, venez nous dire si vous avez déjà vos places pour le match de dimanche soir 20h45 Marseille-Bordeaux, pour ces retrouvailles qui promettent d'être belles après le match des Marseillais à Montpellier. C'est vrai qu'il y a une effervescence à Marseille, on en parlera avec Flo Germain. D'autres retrouvailles tout de suite, celle du stade Pierre Mauroy de Lille avec Christophe Galtier, parce que Lille-Nice c'est demain à 17h et on est avec notre correspondant dans le Nord, Jean Baumel. Salut Djibo.
François, salut Kevin, bonsoir à toutes et à tous.
On accueille aussi Djibo, Clément Brossard qui t'a volé ton Christophe Galtier. Salut Clément.
C'est pas bien ça. Salut François, salut Kevin,
ah,
salut
c'est
à tous.
C'est pas sympa. D'abord,
mais il est bien, je suis un gourou Venec, vous inquiétez pas.
D'abord, messieurs, on va écouter justement Christophe Galtier, c'était hier en conférence de presse sur ce retour attendu à Lille.
Oui, c'est des retrouvailles très rapides, mais c'est avant tout l'OGC Nice qui se déplace chez les champions. de France. Le côté affectif ou ce qui s'est passé la semaine dernière, la performance qu'il a pu y avoir avec ce groupe-là est déjà bien de côté. J'en ai déjà parlé très précisément avec mon groupe il y a 48 heures et ce n'est pas mon match, c'est mon équipe qui va affronter le champion de France en titre. Ça demande beaucoup d'investissement et ça va demander beaucoup d'énergie parce que automatiquement c'est un match où il va y avoir beaucoup d'exposition du fait que c'est le premier match à domicile du champion de France.
Est-ce que tu aurais aimé un petit peu plus de chaleur pour ces retrouvailles attendues dans le Nord, Djibo, de
la part Oui, on a l'impression qu'il est un petit peu embêté. Je sais pas, c'est un peu la sensation que j'ai, parce que généralement, quand on lui parlait à l'époque à Lille de retrouver Saint-Étienne, il avait toujours chaleur. Alors je pense que la séparation en coulisses qui a été un peu tendue avec Olivier Létang a peut-être laissé des traces. C'est compliqué parce qu'il y a Jocelyn Gourvennec qui est là, faire la fête parce que c'est vrai qu'il y a eu cette privation de fête entre guillemets, hein, aucun match à Pierre-Mauroy, heureusement qu'il y a eu quand même cette célébration dans les rues de Lille le lendemain du trophée gagné à Angers. Mais c'est vrai que voilà, on le sait, les supporters lillois vont faire quelque chose. Alors c'est pas, il y aura pas de tifo, on peut imaginer des applaudissements quand ils vont le voir, des encouragements quand il sera sur le bord du terrain, quand son nom sera donné par le speaker du stade Pierre-Mauroy. On peut imaginer aussi des moments sympathiques. Après maintenant c'est du passé. Certains supporters aussi n'ont pas compris son choix, partir dans un plus grand club. Je dis pas que Nice est un petit club, mais on le voyait peut-être aller un peu plus haut, jouer peut-être dans un championnat étranger, aller du côté de Lyon parce que c'était chaud à un moment. Ça a surpris tout le monde, mais le projet niçois, c'est pas Clément qui va me contredire, est aussi séduisant parce que en termes d'avenir, il y a peut-être plus d'avenir à Nice qu'à Lille où on doit faire des économies.
On va en parler des débuts d'ailleurs de Christophe Galtier avec Nice où il a connu les sifflets, alors pas forcément sur lui, mais sur la prestation de l'équipe. Mais juste Kevin, sur ce retour-là, est-ce que ça gâche pas un petit peu tout ce qu'il a fait à Lille, justement le départ de Lille, son départ de Lille qui s'est pas fait dans les bonnes conditions, hein. Est-ce que ça gâche pas un peu tout ce qui s'est passé avec le LOSC?
Non, j'ai pas envie de croire que ça gâche l'aventure de Christophe Galtier avec le LOSC. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que il aurait, moi je pense de toute façon qu'il va recevoir une ovation des supporters de Lille qui n'ont pas la mémoire courte. Il est quand même rentré dans l'histoire de ce club. Après, bien sûr, c'est dommage qu'il ait dû quitter le club dans ces conditions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment réussi à se mettre d'accord dans un premier temps et ça a un peu traîné. Mais après, c'est le foot. Faut aussi qu'il se dise, Christophe Galtier, qu'à la place du club de Lille, il aurait peut-être pas voulu perdre Christophe Galtier non plus. Donc c'est comme ça. C'était un entraîneur qui avait fait un super travail. Les dirigeants lillois auraient aimé le garder. Lui, il a préféré choisir un autre projet. C'est la vie. Maintenant, il faut se rappeler des bons moments. Et je suis sûr que le stade Pierre-Mauroy va l'accueillir comme il se doit, même si lui va bien sûr rester un peu sur la réserve parce qu'il va être concentré sur son match. Mais je suis sûr qu'à la fin, il ira remercier les supporters. Après, je ne sais pas. Moi, je pense que ça reste que du foot et que c'est un avant-match un peu tendu parce qu'il y a des retrouvailles. Mais j'espère qu'après le match, on se serra la main et on prendra un petit verre d'eau gazeuse ensemble.
Ça, c'est... Côté joueurs, ils l'ont pas oublié, hein, notamment Benjamin André, qui, voilà, il le disait, il est venu en conférence de presse hier. Hein, c'est Christophe Galtier qui l'a fait venir à Lille. Hein, je rappelais tout à l'heure, c'est que il y a eu un changement de direction en pleine saison aussi. Hein, et c'est pas évident. Et il a gardé le cap, Christophe Galtier. Olivier Létang avait promis de ne pas vendre de joueurs au mercato d'hiver malgré les difficultés économiques du LOSC. Et ça s'est bien terminé. Mais ce changement de direction dans une saison, c'est pas courant. Et généralement, c'est jamais très bon. Et là, ça s'est bien passé.
Alors, mais si tu le trouves embêté, Gibault, c'est franchement, je pense, juste avec ce départ qui a été compliqué de Lille à Nice, parce que avec les joueurs, tu en parlais, ça se passait très bien. Moi, je l'ai vu sur le match amical contre Milan, il s'est fait une joie de retrouver Mike Maignan notamment et Fodébalo Touré avec qui il a partagé des années. Mais c'est vrai que quand on lance sur les joueurs, là, on peut voir son sourire vraiment et il va avoir hâte, je pense, de retrouver ses anciens joueurs. Mais c'est surtout la situation avec Olivier Létang qui le gêne énormément. Et Olivier Létang, on l'a dit hier dans l'afterfoot, a remis une pièce un petit peu dans la machine chez nos confrères de France Bleu en disant, je répète que Christophe Galtier ne m'a jamais dit qu'il voulait partir avant le 25 mai. Christophe Galtier, quand on lui a exposé les faits et on lui a demandé s'il voulait éventuellement répondre à son ancien président, il a dit bah, j'ai qu'une chose à dire, c'est qu'il aille voir un bon ORL. Donc voilà, les relations sont très dégradées entre les deux, et je pense que c'est uniquement ce départ un petit peu compliqué avec son ancien président qui fait qu'aujourd'hui, quand on lui demande si le retour à Lille sera une bonne chose ou quelque chose d'émotif pour lui, il est un peu peiné parce qu'il se dit qu'avec ses joueurs ça va être sublime, avec les dirigeants un peu moins.
Et puis, alors pour le coup, on va parler un peu aussi de terrain, bien sûr, pour ce Lille-Nice qui est important pour les deux équipes qui ont débuté moyennement ce championnat. Et notamment Clément, j'en parlais, à Nice, il y a eu des sifflets. Alors pas dirigés contre Christophe Galtier, hein, mais il y a eu des sifflets après le 0-0 entre Nice et Reims.
Oui, c'est vrai, des sifflets. Alors de courte durée, parce qu'après il y a quand même une communion entre les joueurs et les supporters et la population notamment. Mais c'est vrai que la première réaction d'une partie des supporters, ça a été les sifflets, parce que Nice a peiné face à une équipe de Reims qui était venue surtout pour défendre ce point du match nul. On a assisté à un match, franchement, en première période encore il y avait un peu de rythme, mais en seconde c'était inexistant. Et Christophe Galtier le dit lui-même, il y avait la chaleur aussi qui a joué certainement, mais il y a eu aussi un énorme manque de réalisme. Il faut trouver des automatismes. Il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés, je pense notamment aux Néerlandais Rosario Kluivert ou Calvin Stengs, même s'ils n'étaient pas là, également Mario Lemina. Il y a une autre façon de travailler aussi, avec un changement de dispositif tactique. L'année dernière, Adrien Urcea ou Patrick Vieira avant lui jouaient en 4-3-3. Christophe Galtier a calqué son 4-4-2 qu'il avait mis en place à Lille. Donc il faut trouver tous ces automatismes, ça prendra du temps. En rencontrant quelques supporters il y a quelques jours, ils étaient emballés toujours de voir Christophe Galtier arriver. Ils placent énormément d'espoir en lui, mais ils sont compréhensifs dans le sens où ils savent très bien que ça va pas se faire du jour au lendemain et qu'il faudra peut-être attendre quelques semaines pour que Nice soit compétitif et truste les hautes places du classement.
Kevin, à la place de Christophe Galtier, tu ferais la même chose? C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression qu'il calque ce qu'il a réussi avec Lille pour être champion à Nice, mais parfois le contexte, les joueurs, évidemment, tu peux pas forcément faire toujours la même chose.
Moi, j'ai un système préférentiel aussi, et je sais que le jour où je serai entraîneur, c'est le système que je vais essayer de mettre en place au départ.
Ensuite, peu importe les joueurs, peu importe.
Non, justement, j'allais dire ensuite, bien sûr que en tant qu'entraîneur, la qualité d'adaptation, elle est prépondérante, et si en face de toi, tu veux jouer en 4-3-3, ce qui est mon cas, mais que tu as deux avant-centres de classe internationale, eh ben, tu vas peut-être essayer de mettre un système pour les mettre en valeur. J'ai pas l'impression que ce soit le cas à Nice. Parce que deux avant-centres, j'en vois pas. Je vois
bah, t'as Tolberg, Guiri qui peuvent faire quand même ensemble.
Pour moi, Guiri.
C'est la paire normalement pour débuter. Ouais.
Oui, mais derrière, t'as qui? T'as personne.
C'est la qualité quand même.
C'est qui ton troisième?
Bah, derrière, c'est jeune, quoi. C'est Van Nguessan, c'est Mizian Maolida, c'est Dan Endoy, c'est très très jeune.
Oui, oui, mais c'est pas des vrais avant-centres pour moi de haut niveau pour l'instant. Donc. Est-ce que après il faut pas oublier quelque chose.
T'as pas Bourak avec David. Hein.
Voilà. Donc ok, David, t'en as deux, mais t'en as même pas un troisième. Tu vois à Monaco. Ouais. Monaco, ils ont deux attaquants comme ça, mais ils ont aussi des joueurs pour le roulement, pour la rotation. Mmh. Là, c'est presque un effectif de 4-3-3 puisque t'as deux avant-centres. Si t'as que deux avant-centres, sachant que Guiri c'est quand même un joueur qui peut jouer aussi sur un côté, qui peut jouer dans un 4-2-3-1 et être un joueur plus libre. Dolberg, lui non, c'est que à la pointe. Ensuite, t'as recruté trois Néerlandais. Les Néerlandais, c'est quoi leur système préférentiel?
Le 4-3-3.
Le 4-3-3. Donc eux aussi, il faut qu'ils apprennent un nouveau système. Faut qu'ils se mettent à la page. Ils vont le faire. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc avoir son système, c'est bien. Maintenant, Christophe Galtier a aussi une façon de travailler. Peut-être qu'il est plus à l'aise en travaillant le 4-4-2. Le 4-4-2, notamment en phase défensive, c'est quand même plus simple à mettre en place. Voilà, c'est les deux lignes de 4 et les deux attaquants devant qui essayent de faire un travail de d'essuie-glace. Mais honnêtement, je demande à voir. Je demande à voir parce que je ne doute en aucun cas des qualités de Christophe Galtier. Je sais que sur la longueur, il va réussir avec cette équipe de Nice. J'en ai aucun doute, vu les points financiers. Mais à court terme, je demande à voir.
Et Djibo, puisqu'on disait que Galtier refaisait du Galtier à Nice, Gourvennec, il tente de refaire aussi du Galtier à Lille. Mais on a vu sur le premier match que bah, défensivement, c'était pas comme la saison dernière. Alors, est-ce que c'était seulement dû à la qualité messine qui était très importante sur ce premier match?
Je te l'accorde.
ou est-ce que c'est parce que Lille version Gouvanec est encore aussi peut-être en rodage en ce début de saison?
Oui, on en a parlé hier justement par rapport à... Parce que prendre 3 buts de la saison dernière, c'était rare. Hein. D'ailleurs, ils en avaient pris une fois, c'était contre Brest, ils avaient perdu 3-2, là ils ont fait 3-3. Il y a le trophée des champions, ils ont gagné, peut-être un peu d'euphorie, inconsciemment, de se dire, bon bah voilà, on a battu le PSG et dans la foulée, on va à Metz, ça sera peut-être plus facile, je sais pas. Hein,
Après, voilà, les buts encaissés, on parlait voilà du cas du gardien, parce que c'est l'un des éléments importants à Lille. En termes de transfert, le départ de Maignan forcément sera très très dur à combler. Léo Jardim a montré des choses intéressantes face au PSG lors du Trophée des Champions, mais il y a encore la question qui se pose de pourquoi pas chercher un gardien avec une plus grande expérience. La défense, c'est habituel, hein, c'est Lick à droite qui est pas encore en grande forme parce qu'il a fait un euro un peu décevant à l'image de la Turquie. Reinildo, qui était un petit peu fautif, hein, sur l'un des buts encaissés. Après, tu as Botman et Fonte au milieu de terrain. Il a tenté un truc qui était, voilà, parce que Cheka était suspendu. Il avait mis donc Youssouf Yazici avec Benjamin André. Bon, pas d'automatisme, hein, Youssouf Yazici avec Sanchez à droite. Voilà, ça c'est parce qu'il y avait des absents. Donc on sait qu'il y aura le retour pour ce week-end de Cheka. Alors qu'il y a des petits soucis avec sa hanche, hein, mais qui est pas pour l'instant pas forfait. On n'a pas encore le groupe. Diallo est suspendu. Mais voilà, comme tu le disais, il fait du Galtier entre guillemets. Il a eu raison de ne pas changer une formule qui gagne, parce que pour l'instant, il y a Maignan qui est parti, Soumaré, joueur dans les deux importants. Après, Arojo, je le mets un cran en dessous parce que c'est un, entre guillemets, un super sub. Mais voilà, il n'y a pas eu non plus d'hémorragie comme on aurait pu l'imaginer. Mais le mercato est loin d'être terminé du côté de Lille, surtout au niveau des départs.
Merci beaucoup, Djibo. On en reparlera bien sûr de ce mercato lillois. Merci, à bientôt.
Demain, 17h, plus de 30 000 personnes. Et information importante, la préfecture a communiqué que, comme le club, le match sera donc avec masque obligatoire pour la rencontre donc demain après-midi à Pierre-Mauroy.
Lille-Nice, demain, 17h.
François Christophe,
à suivre.
J'aurai l'occasion de le voir.
Merci, Clément. Merci.
Bonne soirée.
Bon week-end. Salut. Supporter de l'OM, maintenant, c'est votre tour, on vous attend au 32-16, bien sûr. Marseille-Bordeaux, c'est l'affiche de ce week-end, c'est dimanche 20h45, on en parle dans un instant dans le RMC Football Show avec Kevin Diaz. À tout de suite.
RMC Football Show, François Pinet.
Il est 18h36 sur RMC, très heureux de vous accueillir si vous nous rejoignez pour le RMC Football Show avec Kevin Diaz, c'est jusqu'à 20h. Et à 19h, on se posera cette question sur l'Olympique Lyonnais. Est-ce que le mercato vous inquiète, supporter lyonnais? Il y a peu de recrues pour l'instant. Et puis, on ne sait pas trop qui décide pour l'instant pour le club. Vous entendrez Peter Boss, d'ailleurs, l'entraîneur, dans un instant, supporter de Lyon. Vous nous appelez au 32-16. Mais d'abord, d'autres retrouvailles ce week-end. Ça va être un week-end riche en retrouvailles entre le Stade Vélodrome et son public. C'est en match officiel. Et ça sera dimanche, Marseille-Bordeaux à 20h45. Flo Germain, il sera bien sûr pour RMC. Il est avec nous. Salut Flo.
Évidemment. Salut François. Salut Kevin. Salut à tous.
Tu ne pouvais pas manquer ça.
Non.
Évidemment.
Salut Flo.
Tu as raccourci tes vacances extrêmement longues exprès pour ça.
Raccourci, non, mais je suis revenu au bon moment. L'OM revient au Vélodrome, on est là.
Parce que depuis la semaine dernière et le match à Montpellier qu'on a vécu sur RMC, un match à rebondissement et à émotion, tout le monde a envie d'avoir sa place au Stade Vélodrome. C'est un truc de dingue.
Écoute, il y aura du monde, hein. Il y aura 50 000 personnes environ. J'ai cru voir passer une petite info de l'OM comme quoi il restait encore quelques places, donc a priori c'était jouable, à moins que tout ait été pris là ces dernières minutes, mais voilà, on part sur une affluence de 50 000 personnes pour ce match au Vélodrome. Et effectivement, ce sont les retrouvailles officielles, parce que on vous refait pas le tableau de ces saisons tristounettes avec des stades vides ou des jauges ultra réduites et un Vélodrome sans ses supporters. Évidemment, l'immense Vélodrome, ça sonne creux. Et là, on a eu un avant-goût, un petit apéritif avec le match amical contre Villarreal. C'était déjà assez chaud, mais rappelez-vous la disposition, notamment les virages n'étaient pas trop remplis. On avait privilégié les tribunes latérales, surtout la tribune Ganet. Là, il y aura plus de monde, notamment derrière les buts. Il y aura, je pense, une grosse ambiance. Et donc, il y a cette envie d'y être du côté des joueurs et de Jorge Sampaoli, parce que il y a ce moment important où l'OM lance sa saison avec ses supporters et souvent ça fait la différence quand l'OM est avec son public.
Ben justement, on va l'écouter, Jorge Sampaoli, aujourd'hui en conférence de presse, avec ses tatouages, avec son Marcel, hein, un style bien à lui, mais pas mal d'émotions quand il parle.
C'est pas un Marcel, ça, c'est un débardeur.
Un débardeur, c'est quoi la différence?
Le Marcel, ça fait quand même des petites bretelles.
Voilà, la bretelle est plus fine.
Voilà, et le débardeur, ça vient jusqu'au haut de l'épaule.
Ouais. Ah, alors Kevin le sait, parce ça, que c'est intéressant. Là, c'est un spécialiste du bronzage Marcel. C'est-à-dire que tu sais quand.
Non, justement, moi, je suis plutôt débardeur.
Ah, d'accord, ok.
C'est mieux le bronzage débardeur, c'est mieux que Marcel.
Non,
mais
ah, oui, normalement, c'est plus classe, c'est plus esthétique.
C'est plus classe. Que, ouais.
Conseil vêtements, ok. Donc il vaut mieux le débardeur plutôt que le Marcel. C'est ça. Voilà, c'est le conseil du soir.
Ah oui, vu la chaleur, c'est important de donner des.
Non, mais c'est important. C'est important.
Le point mode,
le point mode de Kevin Diaz. Jorge Sampaoli, justement, aujourd'hui en conférence de presse, écoutez.
C'est très important que les supporters vivent des émotions au stade. Mais on doit aussi avoir plus de contrôle sur notre match, car quand on perd ce contrôle, ça amène à commettre des erreurs. C'est important que le sentiment entre les supporters soit le même que celui du staff et des joueurs, car quand c'est le cas, la cohabitation est beaucoup plus simple. On espère continuer avec cet état d'esprit, mais dans le football, les histoires d'amour ne durent pas longtemps quand il n'y a pas de résultat.
Normalmente, como mandan los resultados, los enamoramientos duran poco.
Voilà, il répondait à des questions sur lui, justement, qui est adoré des supporters déjà, alors qu'il vient presque d'arriver, hein, Jorge Sampaoli. J'adore cette phrase. Les histoires d'amour ne durent pas longtemps quand il n'y a pas de résultat.
Ou finissent mal en général.
Ou finissent mal en général, c'est notre phrase.
En fait, il l'a dit à l'envers. Il a dit, dans le football, il n'y a pas souvent de résultats. C'est pour ça que l'amour va vite, ou que les histoires d'amour sont courtes.
Ouais. Mais tu comprends ce qu'il veut dire?
Bien sûr.
Il faut absolument que Marseille, et c'est vrai, on a bien senti l'émotion, on a bien senti qu'il y avait du jeu, que tout le monde se donnait à fond dans ce groupe. Mais il le dit aussi, ça marchera pas s'il n'y a pas de résultat. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ça montre que, surtout, on parle souvent d'entraîneurs un peu dogmatiques ou idéalistes. Mais lui, il est quand même réaliste. Je dirais pas pragmatique. Parce qu'il va pas utiliser peut-être tout un pragmatique, il va utiliser toutes les formes de jeu pour y arriver. Lui, on a l'impression quand même qu'il est réaliste, c'est-à-dire que lui, il croit vraiment qu'il faut procurer des émotions, il faut procurer du spectacle, il faut produire un football offensif, mais c'est parce que selon lui, c'est la seule manière de gagner. Et c'est ce que certains oublient souvent quand on parle des entraîneurs comme ça un peu romantiques, c'est que le romantisme, ça n'empêche pas d'avoir la grinta et de vouloir gagner. Hein, si on parle de l'Ajax d'Amsterdam ou du Brésil 70, c'est des équipes qui ont très très bien joué au foot, mais qui ont surtout gagné et qui avaient pour objectif de gagner. Et ça c'est pareil pour le Barça ou le Manchester City de Guardiola. Quand il arrive dans un club, ce genre d'entraîneur, ils veulent produire du jeu parce qu'ils sont convaincus et absolument convaincus que c'est en produisant du jeu, du spectacle et des émotions qu'ils vont réussir à toucher les supporters et surtout à gagner des matchs.
C'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est, ouais, lui, voilà. Il est convaincu que ce caractère, parce qu'il a construit une équipe un peu à sa manière, hein. D'ailleurs, Pape Gay disait aujourd'hui que l'équipe ressemblait au coach et à son caractère. Et c'est vrai que lui, il pense que les émotions que vont transmettre les joueurs, ce jeu offensif, ce caractère, c'est ce qui va amener les résultats. Il est persuadé que cette équipe construite comme elle est, avec sa philosophie de jeu qui n'est pas négociable, c'est ce qu'il avait dit très tôt quand il est arrivé en conférence de presse, c'est pour lui sa méthode et sa manière d'amener l'OM vers de bons résultats. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va pas s'ennuyer. D'ailleurs, le premier match d'entrée à donner le ton de ce qui peut être la saison de l'OM, c'est-à-dire il y aura sûrement des déséquilibres, parfois peut-être que ça va pas fonctionner et que l'OM va se prendre des buts, mais en tout cas en termes d'émotion, je pense que les supporters olympiens
ils vont être servis
exactement.
Alors justement, des nouvelles peut-être du groupe marseillais avant ce match contre Bordeaux.
On était à l'entraînement ce matin. Ce qu'il faut souligner, alors déjà, à part les absents un peu plus longue durée, Milik, on a compris qu'il reviendrait pas avant fin septembre, hein, je pense. Hein, donc il faut être patient sur Milik. Et Paulo Lopez, qui lui était touché à l'épaule, il est en phase de reprise. Il était à l'entraînement ce matin, mais il est trop juste pour être dans le groupe. Tout le monde est là. Valentin Rongier s'est bien remis du projectile qu'il a reçu à Montpellier. Il y a pas de souci. Il s'est entraîné dès le début de semaine. Mais je voulais souligner le fait qu'il y avait deux groupes aujourd'hui et il y avait plutôt un groupe qui est censé être celui des titulaires qui était au début de la séance d'ailleurs plutôt en vidéo et en musculation. On les a pas trop vus, mais il y avait sur le terrain un groupe qui est estampillé pour le moment le groupe des remplaçants. Il y a pourtant des joueurs plutôt de qualité, à ma vie, Rongier, Tchaletatsar, Alvaro, plus Dieng, plus Radonjić, ils étaient dans ce groupe-là. Je pense que ça veut dire qu'il va sûrement reconduire le même 11 ou presque Jorge Sampaoli. Et ça veut dire que peut-être que certains joueurs se posent des questions déjà. Je pense à Mavi qui s'imaginait au début, notamment car il a prolongé, avoir plus de temps de jeu et avoir plus la confiance de Sampaoli. C'est pas le cas pour le moment. C'est pour ça que la fin août peut être agitée dans le sens des départs.
Alors, on va en parler, je pense. Parce qu'on va en parler. On va continuer. Ouais, tu la poseras après, Kevin. On va continuer justement et parler du mercato plus en détail avec toi. Une très bonne question. Très bon teasing. On sera également avec Julien au 32-16 et vous, supporters marseillais, n'hésitez pas comme Julien. Le 32-16 pour nous rejoindre. On continue de parler de l'OM, bien sûr. À tout de suite.
RMC Football Show. François Pinet.
Avec Kevin Dia jusqu'à 20h. Et dans la deuxième heure, on parlera de l'Olympique Lyonnais, bien sûr. Supporters de Lyon, on vous attend. On parlera du mercato de l'OL et puis aussi du début des championnats en Europe. Ça repart ce soir en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. On sera notamment avec Fred Hermel, qui lui aussi a arrêté ses vacances pour nous rejoindre, tout comme Flo Germain, qui est donc avec nous pour parler de l'OM actuellement. Avec Kevin, qui avait une question à poser suite à ce que tu disais, Flo, sur l'entraînement des Marseillais. C'est ça, Kevin ?
Oui, toi qui es toujours très bien informé.
Avant de parler du mercato marseillais.
Je voudrais savoir, est-ce que, comme tu dis, il y a une scission un peu dans le groupe entre les titulaires et les remplaçants, dans le sens où Sampaoli a l'air d'être assez clair pour l'instant sur ceux qui vont débuter et ceux qui sont un peu, on va dire, sur le côté pour l'instant. Est-ce qu'il leur donne quand même de l'importance à l'image de ce que fait un peu Kovac, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a des joueurs qui vont très vite avoir le sentiment qu'à moins d'une hécatombe, ils vont pas jouer titulaire de sitôt?
Moi, c'est le sentiment que ça m'a donné dès la fin de saison dernière. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple assez précis, alors qu'on est autorisé à suivre que les 20 premières minutes d'entraînement, parfois, même très souvent, on arrivait à deviner quel allait être le 11 de Sampaoli, parce que il n'hésite pas en toute décontraction, décomplexé, à distribuer les chasubles, même si la presse est là, pour voir à la limite qui va être titulaire. Enfin, ça saute aux yeux. C'est-à-dire que souvent, il y a un groupe de 10, donc vous enlevez le gardien, on a tous les titulaires, qui est en train de travailler spécifiquement. Alors, il y a souvent 2-3 joueurs qui sont à la limite. Là, si on prend l'exemple d'aujourd'hui, je pense que Rongier, au final, n'est pas si loin, même si je pense qu'il aurait dû entrer en jeu à Montpellier. Bon, finalement, il y a eu ce petit incident. Donc voilà, Alvaro, je pense qu'il aura son mot à dire. À ma vie, comme je le disais tout à l'heure, il espère avoir plus de confiance. Mais Dieng a un petit peu de temps de jeu en fin de rencontre. Mais voilà, on sent quand même que s'il gagne, si ça tourne, ça va pas être un adepte du turnover. Et je sais pas si dans le vestiaire, ça se ressent profondément, mais au moins un petit peu. Je sais qu'il y en a certains qui boudent ou qui s'interrogent. Voilà, c'est pas Sampaoli, c'est pas. D'ailleurs, il a voulu quoi? Il a voulu un groupe resserré. L'une de ses priorités, ça a été de dire à Pablo Longoria, moi, je veux un groupe restreint pour éviter d'avoir ces ennuis-là de gestion d'ego, de gestion d'effectifs, qui du coup peut être compliqué, cette gestion, quand lui, il a cette philosophie de compter sur 11, 12, 13, 14, 15 joueurs maximum.
Il va y avoir la Coupe d'Europe quand même. Tu peux pas faire la Coupe d'Europe et le championnat avec les 11 mêmes joueurs.
C'est pour ça qu'ils auront leur chance aussi. Oui, mais à partir du moment où ça fonctionne, c'est ce que nous dit Flo, il va garder les mêmes.
Je suis pas très fan de ce système-là, mais bon.
Alors, le mercato, on l'a un petit peu évoqué, mais le point où on en est du mercato, je crois que ça a été aussi évoqué en conférence de presse pour Marseille.
Oui, alors assez peu finalement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que s'il n'y a rien de concret, Jorge Sampaoli peut faire dans la langue de bois à ce niveau-là, ou en tout cas ne pas trop dévoiler les dernières transactions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a glissé au détour d'une phrase qu'il espérait que ce soit Paul Lirola, son futur latéral, on va l'appeler comme ça, mais piston droit, parce qu'on lui avait posé la question de savoir comment il s'organisait sans latéral droit de métier. Ce qu'on peut vous dire sur Lirola, c'est que lui, évidemment, sa priorité des priorités, c'est de revenir à l'OM, où il avait été prêté. Que ça s'est un peu tendu, on l'a suivi ces derniers jours avec la Fiorentina. D'ailleurs, il n'a pas été convoqué dans le groupe pour le premier match de la saison en coupe de la Fiorentina. D'après nos infos, on n'est pas loin non plus d'un accord, mais la Fiorentina fait tarder les négos, se montre chipote pour ce qui peut s'apparenter à quelques détails. Je pense qu'il y a de l'optimisme quand même du côté de l'OM. Et surtout, on est confiant par rapport à un point, c'est que Paul Lirola a montré, démontré sa détermination à jouer à l'OM. Lui, il veut rien entendre d'autre, même si l'Atalanta se serait positionné. Lui, il veut venir à Marseille.
D'accord. Julien a fait le 32-16. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Salut Julien de Marseille. Avec salut, plaisir. Julien.
Merci de m'accueillir. Je fais juste une petite parenthèse. Je suis un petit peu déçu que Courbis ne soit pas là. Mais bon.
Ah bah, il doit se reposer aussi, coach. Il a beaucoup travaillé.
Il a fêté son anniv hier, oui. Julien.
Ah, c'est pour ça.
Un petit peu.
Ouais, les anniversaires de coach Courbis, c'est quelque chose.
J'ai vu trois entraîneurs importants dans ma vie. Quatre. J'ai vu Guardiola, j'ai vu Courbis, j'ai vu Giroud et Wenger qui s'affrontaient à Auxerre Monaco quand j'étais tout petit.
Ah oui.
Pour la petite parenthèse.
D'accord. Voilà. écoute, on lui passera ton bonjour, en tout cas, Julien.
Ça me ferait beaucoup plaisir parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup.
Mais il nous écoute,
moi,
c'est sûr.
Moi, je trouve que le recrutement marseillais, il y aura 50% de pas bien, à qu'on soit bien d'accord. Mais ce que j'ai adoré, c'est Logoria qui a 34-35 ans, je ne sais plus.
34 ans, ouais.
Voilà, moi j'ai 39 ans, donc on s'appelle les trous du cul, on va les appeler comme ça, pour être clair. Il n'a pas attendu le 31 août pour prendre un Mitroglou à 23h58. Et moi, je trouve que c'est vachement intelligent parce qu'ils ont déjà eu un bon mois pour travailler. Après, c'est quand on voit des Alvaro, des choses comme ça, qui étaient déjà l'année dernière, des Longoria, comme vous parliez il y a deux minutes, qui veulent absolument qu'il y ait l'Atalanta Bergame, qu'il y ait Leandro Gomez, c'est quand même des choses comme ça. Hein.
Ouais.
On est d'accord. Hein. Mmh. Ils veulent venir à Marseille, c'est qu'il y a un amour. Non?
Oui, et c'est qu'il a une bonne relation aussi avec Sampaoli, enfin qui lui fait confiance. De bonnes relations aussi avec ses anciens coéquipiers. Je sais qu'il reste en contact avec quelques joueurs. Et oui. Tout simplement, certains joueurs, je sais que c'est revenu dans les conversations, Julien. Certains joueurs qui ont vécu la saison passée dans un Vélodrome donc vide, se ouais. disent je veux pas connaître l'OM sans ses supporters. C'est vraiment un argument de connaître une saison pleine avec une vraie ambiance, un vrai Marseille. Quoi.
Bah oui. Tu y seras d'ailleurs dimanche?
Non, je n'y serai pas. D'accord. Moi, je suis sur Saint-Raphaël, donc je suis quand même.
D'accord.
On parle toujours de derby Nice-Marseille. Moi, ça me fait toujours rigoler parce que Nice et Marseille, il y a 230 km. Hein. Mmh. Qu'on soit bien d'accord. Moi, je viens de Nancy, donc c'est Nancy-Metz. Oui, il y avait 50 bornes. On est d'accord. Ça me fait toujours rire. Mais non, j'y serai pas. Le dernier match que j'ai vu de Marseille, ça a été le Leipzig. Voilà.
Ah oui, c'était pas mal.
C'était une surprise.
Ouais.
Bah, c'est pas mal quand ça gagne. Et l'avant-dernier, c'était contre l'Atlético Madrid à Lyon.
Ouais. Bon, là, ça gagnait.
Après, le lendemain matin, on était au boulot à 7h, on faisait un peu la tête-tête. Hein.
Mais bon, Julia, du coup, toi, t'es plutôt confiant pour cette année avec Sampaoli?
Paris sera champion parce qu'ils ont. À moins que Paris. Paris sera champion. C'est pour ça que j'avais appelé tout à l'heure, en fait, au départ. C'est parce que je voulais juste. Je peux prendre une minute pour parler juste de Paris? Juste une petite minute?
Ah, là, c'est pas trop le thème. Mais qu'est-ce que tu veux dire
non,
sur Paris?
Mais Paris, ça va pas le faire.
Ah.
Ils vont gagner la Ligue 1, hein, ça c'est sûr. Mais je pense qu'entre Messi qui s'est fait défoncer par Sergio Ramos depuis 13 ans, Neymar qui redevient le sous-lieutenant de Messi, et puis Mbappé qui a son orgueil, parce qu'Mbappé, même si je dis rien du mal hein, de ce club, hein, même si je suis supporter marseillais, je pense que ça va être un petit peu compliqué, quoi. Voilà.
Bon, ok. Écoute, on
je suis
parlera
désolé,
de PSG.
Je dis, hein.
Mais non, mais attends, tous les avis, et tu as le droit de parler de Paris.
J'aimerais bien
Paris,
avoir
pas
l'avis autour de la table.
D'ailleurs, François, juste, je fais très
table.
Court, parce que je crois qu'on n'a pas le temps de passer le son.
Temps. Vas-y.
Sampaoli en a parlé de l'arrivée de Messi,
oui,
de
très bien comme
l'hégémonie
son,
du PSG.
Raconte-moi un peu.
Non, est-ce que lui appelle une inéquité en disant, par les temps qui courent, le pouvoir a plus d'importance que la justice, et il a eu cette phrase qui va plaire aux supporters marseillais en disant que il espère que dans un futur pas si lointain, l'OM, des clubs historiques comme l'OM auront les mêmes moyens pour se battre. Donc il est très heureux évidemment de voir les projecteurs sur la Ligue 1 et l'arrivée d'un joueur qu'il connaît très bien, Lionel Messi, ça il va pas s'en plaindre, mais malgré tout il regrette le fait que Paris tue la concurrence, ouais. Non seulement en France et on verra si en Europe, mais en tout cas en Ligue 1.
Merci beaucoup en tout cas Flo, merci.
Merci à vous.
Et
merci
Flo. Bon ciao. Match donc dimanche 20h45 Marseille-Bordeaux. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr sur RMC tout le week-end. Merci beaucoup à Julien qui est venu nous voir au 32-16. Dans un instant avec Kevin Diaz, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que le mercato lyonnais vous inquiète? On vous attend au 32-16 supporters lyonnais. On entendra le coach Peter Boss. À tout de suite.
RMC Football Show.